Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Mon invité ce matin est l'académicien Amin Malouf, qui a été longtemps journaliste dans une région du monde secouée plus que les autres par les soubresauts de l'histoire du XXe siècle. Dans son dernier livre, « Le naufrage des civilisations », édité chez Grasset, l'essayiste levantin, comme on ne dit plus aujourd'hui, replonge dans sa propre histoire pour analyser avec le recul des années comment le monde a changé, comment les utopies se sont transformées en cauchemars et les raisons du succès des révolutions conservatrices. Un livre à lire de toute urgence et surtout à quelques jours des élections européennes dont on ne mesure toujours pas l'importance cruciale. Un regard lucide sur notre époque donc avec Amin Malouf ce matin dans le Réveil culturel, émission préparée avec Corinne Amar, assistée de Maëlle Ray, avec ce matin à la technique Philippe Mercher et à la réalisation Lionel Quentin.
Le Réveil culturel. Lundi, livre.
وأقول لكم بصدق وبرغم أي عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه لقد قررت أن أتنحى تماما.
C'était le 9 juin 1967, le président égyptien Nasser annonce sa démission à l'issue de la guerre des six jours avec Israël. Et plus qu'une défaite, c'est une humiliation dont le monde arabe ne se relèvera pas. C'est ce que vous nous dites, Amin Malouf, bonjour.
Bonjour.
Dans le naufrage des civilisations qui paraît chez Grasset, vous dites que depuis, le monde arabe ne s'est pas relevé.
Je me souviens d'ailleurs de ce discours, je l'avais écouté à ce moment-là. Et c'était un coup de massue, réellement, un coup de massue. Il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là, c'était un vendredi. Je devais recevoir les résultats de mon premier examen à l'université. J'avais 18 ans à l'époque. Et ça devait sortir le 9 juin.
Et c'est incroyable ce qui s'est passé.
J'avais oublié.
Non, parce que vous êtes allé, vous avez vu la liste et vous avez oublié si vous étiez admis ou pas.
Absolument, j'ai vu la liste, j'ai vu mon résultat et je suis sorti de l'université en ayant oublié si j'avais réussi ou échoué. C'est dire à quel point la confusion mentale ce jour-là était énorme dans le pays et un peu dans toute la région arabe.
Alors pourquoi vous dites que ce moment-là est très crucial pour tout le monde arabe et tout ce qui arrive jusqu'à aujourd'hui à tous les pays arabes, à tous les pays de la région, à avoir avec cette défaite?
Ça aurait pu ne pas avoir cette importance, mais la chute de Nasser, la chute au sens de défaite, puis en plus il est mort 3 ans après sans avoir jamais pu reprendre sa revanche, a été la fin d'une époque et le début d'une autre. La fin d'une époque parce que du temps de Nasser, l'idéologie dominante dans le monde arabe, c'était le panarabisme, le nationalisme arabe, qui était personnifié par Nasser. Et la défaite de Nasser en 67 a signifié la fin de cette idéologie, qui depuis n'a cessé de péricliter jusqu'à pratiquement disparaître, et la montée d'une autre idéologie, qui l'a remplacée, et qui était fondée sur la religion. Et dans le monde arabe, beaucoup de gens ont essayé de remplacer Nasser, de prendre sa place, de devenir le héros du monde arabe. Il y a Kadhafi, il y a eu Saddam Hussein et beaucoup d'autres. Personne n'a réussi. Personne n'a jamais pu avoir la popularité de Nasser. Et le monde arabe, je dirais qu'il est encore orphelin de Nasser. Souvent sans le savoir d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui ne se souviennent pas, évidemment, de cette époque-là. Il y a des gens qui ont rejoint des mouvements qui étaient très hostiles à Nasser. Nasser est arrivé au pouvoir avec un conflit très grave avec les frères musulmans. Et il a pu s'imposer aux frères musulmans. Et sa défaite est apparue comme une victoire des frères musulmans qui ont pu dire à ce moment-là, regardez, cet homme qui vous a emmené dans cette direction, c'était un enchanteur, mais il vous a berné. Et c'est ce qui s'entendait à partir de 67 dans la région. Et Nasser a perdu peu à peu sa crédibilité, ce qui aujourd'hui paraît évident. Mais du temps de sa gloire, on avait l'impression qu'il était là pour des générations, qu'il a laissé un héritage extraordinaire. Et en fait, il ne reste plus grand-chose.
Alors, il y avait un monde arabe avant Nasser, et avant ce 9 juin 67, et un autre après. Et vous dites aussi, dans Le naufrage des civilisations, Amin Malouf, qu'il y avait un monde avant l'arrivée de Margaret Thatcher et la révolution iranienne, ces deux révolutions conservatrices qui ont beaucoup changé le cours du monde du XXe siècle, du monde présent. Vous racontez ça et vous n'oubliez pas de dire, puisque c'est quand même un récit très subjectif, où vous racontez aussi votre jeunesse, où vous racontez l'histoire de votre famille, vous rappelez à chaque fois à quel point c'est complexe. Par exemple, pour revenir sur Nasser, c'est tout à la fois ce président, ce leader arabe que vous admiriez à l'époque où vous étiez étudiant, et pourtant c'est l'homme qui a causé quand même le malheur de votre famille.
C'est vrai, parce que la famille de ma mère était installée en Égypte depuis la fin du 19e siècle, et l'arrivée de Nasser au pouvoir s'est traduite par une expulsion, en réalité, disons qu'il les a poussés vers la sortie. Tous ceux qui n'étaient pas des Égyptiens de souche ont été poussés vers la sortie avec le triomphe de la révolution nassérienne. Je le compare à un moment donné à Mandela, qui a mené un combat contre une minorité qui dominait le pays. Et puis, dès qu'il a gagné la bataille, il est allé leur demander de rester au pays parce qu'il a estimé qu'ils étaient indispensables au pays. Nasser n'a pas eu le même comportement. C'est peut-être un peu dû au tempérament de l'un et de l'autre, mais c'est surtout dû, je dirais, à l'époque. Nasser était à une époque où on avait le sentiment que le colonialisme était encore là, qu'il pouvait revenir. On avait assisté à la chute de Mossadegh en Iran, au retour du Shah, et donc il y avait le sentiment qu'il fallait couper une fois pour toutes avec le passé. Ça s'est traduit en réalité par des souffrances, et pour le pays, et puis pour commencer, pour toutes ces communautés qu'on appelait à l'époque les égyptianisées, dont la famille de ma mère, qui était là depuis des générations, qui se sentaient égyptiens, en fait, mais qui, en réalité, avaient un statut un peu différent de celui des Égyptiens. Et ce statut a suscité beaucoup de ressentiments et a conduit finalement à la disparition de ce modèle.
Et jusqu'à aujourd'hui, Amin Malouf, votre relation avec le président Nasser est assez ambiguë.
Il y avait en lui le meilleur et le pire. Il avait certainement incarné les espoirs de la région. C'était certainement un homme profondément intègre, qui était totalement dédié à son combat. Il avait un projet national. Et en même temps, il a voulu gouverner par un parti unique. Là encore, c'était l'esprit de l'époque. Il a voulu contrôler la presse, contrôler les maisons d'édition. Il a donné une importance excessive aux services secrets qui étaient infiltrés partout. Donc sa manière de gouverner était pour le moins contestable. Sa politique économique était fondée sur un dirigisme un peu de type soviétique, très bureaucratique, et qui a mené à la ruine. Il y avait les deux aspects.
Là, pour l'instant, c'est plutôt le mauvais côté de Nasser que vous développez.
Le bon côté, c'est qu'il a dit au peuple, relevez la tête. Il a donné véritablement aux gens le sens de la dignité. Ils avaient l'impression d'avoir recouvré leur dignité. Pendant très longtemps, l'Égypte était dominée par les Britanniques, qui contrôlaient le canal de Suez, qui avaient des troupes, qui intervenaient de temps à autre pour forcer le roi à installer un gouvernement à la place d'un autre. Et les gens vivaient cela très mal. Et lui, il est arrivé et il a mis les Britanniques dehors. Et les gens étaient contents de voir les puissances coloniales mises dehors. Et quand il a nationalisé le canal de Suez en 56 et qu'il y a eu une attaque militaire anglo-franco-israélienne contre l'Égypte et qu'il est sorti politiquement gagnant de ce conflit, il est devenu véritablement l'idole. Il donnait l'impression de pouvoir gagner. Il redonnait aux Arabes une place sur la scène internationale. C'était une figure considérable sur la scène internationale. Et donc, il y avait les deux aspects. C'était une grande figure, et en même temps, c'était son gouvernement pêché tant par l'aspect dictatorial que par l'aspect d'incompétence.
Et aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde arabe, Amin Maalouf, qu'est-ce que ça vous inspire? Ce qui se passe en Algérie, en Tunisie, les promesses d'un printemps arabe qui se sont transformées soit en cauchemar, soit en guerre, soit en retour en arrière, pour parler encore une fois de l'Égypte, mais qui laisse apparaître quand même beaucoup d'espoir, en tout cas un peu plus d'espoir que le statu quo d'il y a quelques années.
Ce qu'on a appelé le printemps arabe était un phénomène intéressant. Je pense qu'au début, les gens qui ont mené le mouvement voulaient sincèrement des changements tout à fait légitimes et voulaient moderniser la société. Ça aurait mérité de réussir, mais quand on fait le bilan aujourd'hui, il a été assez désastreux. La plupart des pays qui ont été impliqués dans le printemps arabe ont connu des retours de bâton très durs et souvent, le plus souvent, la situation actuelle n'est pas meilleure qu'avant. Ce que vous dites de l'Algérie et j'ajouterai du Soudan, c'est intéressant. Il y a des populations qui se comportent d'une manière responsable, qui ont le sentiment d'être souveraines, qui ont des aspirations extrêmement nobles. Alors, à mon avis, on peut regarder cette évolution avec espoir, mais dans cette région, l'espoir est souvent déçu. J'espère que cette fois, il ne le sera pas.
Oui, mais cette fois-ci, on ne cherche pas l'homme providentiel. Est-ce que vous pensez que la page du grand leader sauveur de la nation arabe est définitivement tournée?
Je pense que l'homme providentiel était un moment dans l'histoire. Je ne pense pas que ça ait fait beaucoup de bien à la région.
Et pourtant, non, je pense. La serre incarnait cet homme providentiel.
Il l'a incarné. C'était un moment de l'histoire. Je pense que le monde arabe d'aujourd'hui n'est pas en mesure de produire un homme providentiel. Je ne suis même pas sûr que ce soit une bonne chose qu'il y ait un homme providentiel. Si on pouvait bâtir dans un certain nombre de pays arabes, d'abord l'état de droit et un peu de démocratie, de liberté pour commencer et moderniser les sociétés, je crois que ce serait une excellente chose. On n'a pas besoin d'une nouvelle expérience nassérienne.
Le réveil culturel. Toufik Hakem. حبيتك بالصيف
La grande feuille rousse, c'est pour vous, Amin Malouf. Hein. Ça vous plaît d'ailleurs de
c'est une superbe chanson.
Ouais.
Qui dit « Je t'ai aimé en été, je t'ai aimé en hiver
ouais. ».
C'est écrit par un bon ami à moi avec qui j'ai travaillé longtemps dans le journalisme, qui était un Silhaj.
Amin Malouf, dans le naufrage des civilisations, vous ne parlez pas seulement de cette période, hein, c'est-à-dire de l'histoire de votre famille, de comment le Levant va disparaître avec sa particularité, avec ses sociétés cosmopolites. Vous parlez aussi du reste du monde. Et pour vous, il y a une année du grand retournement, c'est l'année 1979, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher et puis la révolution iranienne. Pourquoi ces deux événements, pour vous, sont très importants et fondateurs du grand changement du monde ?
Dans ce livre, j'ai voulu passer en revue les événements des dernières décennies pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et il y a une année qui m'est apparue décisive. C'est effectivement 1979. Il y a eu deux événements majeurs et quelques autres. Un événement, c'était effectivement la révolution iranienne qui marquait la fin de l'évolution qui a suivi la défaite de Nasser vers un monde arabo-musulman où l'idéologie dominante est fondée sur la religion. Et le triomphe de la révolution iranienne en février 1979, c'était ce moment-là, et ça a eu des conséquences dans les années suivantes. En Occident, il y a eu un phénomène qui s'est passé 3 mois après, en mai 1979. C'était l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir, avec une nouvelle conception de la politique, de l'économie, du rôle de l'État, qui a complètement rompu avec ce qu'il y avait avant. Avant, on avait, pour dire les choses rapidement, l'idée d'un État-providence qui allait aider à atténuer les tensions sociales. Elle a rompu avec cela. Et elle a appelé ce changement, sa révolution conservatrice. Un an après, c'était Reagan qui gagnait aux États-Unis et qui allait faire la même chose. Et peu à peu, cette manière de gouverner, cette nouvelle manière de gouverner, s'est répandue à travers le monde. La conséquence du premier événement que j'ai évoqué, c'est qu'il a attisé les tensions identitaires un peu partout à travers le monde. Les conséquences du second événement, c'est qu'il a attisé les tensions sociales un peu partout à travers le monde. Et nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est très morcelé, je dis même tribalisé, sous l'effet de ces deux facteurs, les tensions identitaires et les violences qu'elles ont engendrées, et les tensions sociales liées à la disparition du principe d'égalité comme référence morale et au sentiment qu'ont des gens de plus en plus nombreux à travers le monde, et notamment dans le monde développé en Europe et aux États-Unis, de sentiment d'être laissés pour compte et de n'avoir pas leur part dans la prospérité.
Alors, vous parlez de la fin aussi du bloc soviétique. Vous ne parlez pas de la Yougoslavie, en tout cas pas très profondément, alors que ça aurait pu trouver cette place dans votre analyse, Amin Malouf, de ce que vous appelez la tendance au morcellement et à la tribalisation qui se vérifie un peu partout, d'une manière très dramatique dans les pays du Sud, les pays arabes d'une manière très particulière. Mais vous dites, on voit ça partout.
Notamment en Europe, c'est-à-dire l'Europe devait être l'exemple d'une région qui s'unit. Et effectivement, l'Europe a rompu avec les querelles du passé pour bâtir l'avenir ensemble. Et pendant quelques décennies, on a eu le sentiment que les choses évoluaient dans cette direction. Et à mon avis, c'était le projet le plus prometteur.
C'est ce que vous dites, c'était le projet qui portait le progrès.
J'hésite encore à en parler au passé, parce que le projet est toujours là, sauf qu'il est en difficulté, il a besoin d'être sauvé aujourd'hui.
Ouais, mais sauf que vous dites, j'attends autre chose de mon continent d'adoption, l'Europe, c'est-à-dire j'attends que l'Europe offre à l'humanité entière une boussole pour lui éviter de s'égarer, de se décomposer en tribus, en communautés, en factions ou en clans.
Je pense que l'Europe a les moyens de le faire.
Mais comment l'Europe peut faire ça ?
D'abord, nous avons assisté dans les 30 dernières années à la démission de l'unique superpuissance qui est les États-Unis. Bon. Politiquement, ils n'ont peut-être pas démissionné, ils interviennent un peu partout, mais moralement, ils ont démissionné. Ils ne jouent plus le rôle de boussole morale pour le reste de l'humanité. Et qui donc peut jouer ce rôle? On ne voit personne d'autre que l'Europe, qui donne l'exemple d'une région du monde qui a joué un rôle majeur, qui a été au centre du monde, qui était à l'origine de la révolution industrielle, et qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a voulu mettre derrière elle tous les conflits, tous les massacres, pour bâtir quelque chose de nouveau. Pour le faire, il aurait dû prendre les moyens de jouer ce rôle. En réalité, elle n'a pas osé franchir le pas. Elle n'a pas osé franchir le pas.
Quel est le pas qu'elle n'a pas osé franchir, l'Europe, d'après vous, Amin Maalouf, pour être plus explicite?
Devenir véritablement une puissance mondiale capable de prendre des décisions et non pas simplement de subir les décisions des autres. Je pense que ce qui est décisif dans ce cas, c'est au moment de la fondation, on aurait probablement dû créer des liens organiques entre les pays. Probablement, mais ça c'est mon point de vue, aller vers une forme de fédération européenne semblable aux États-Unis, avec probablement un rôle plus important pour les différents États qui ont beaucoup plus de personnalité historique et culturelle que les États américains, mais en même temps bâtir véritablement une puissance qui puisse influencer le cours des choses. Et je pense que les Européens, à cause de leurs expériences passées, notamment le passé colonial, ont été timorés dans ce domaine. Ils ont préféré se contenter d'un rôle de secondaire, de puissance...
médiatrice, plutôt.
Oui, avec une intervention principalement dans le domaine économique, en suivant ce que décident les autres, sans prendre eux-mêmes en main l'évolution. Et je crois que, même au niveau des institutions, l'Europe n'a pas osé franchir le pas pour bâtir des institutions élues, des peuples qui ont une longue tradition démocratique ne se reconnaissent pas dans une institution qu'ils n'ont pas directement élue.
Mais est-ce qu'il y a un véritable désir d'Europe de la part des Européens?
Je pense que ce désir aurait dû être construit, expliqué, et il ne l'a pas été suffisamment. Je pense qu'il existait à l'état embryonnaire, on ne l'a pas développé. On aurait dû notamment bâtir l'Europe sur le plan culturel. On s'est contenté de bâtir l'Europe sur le plan de économique, un peu politique, un peu au niveau de l'harmonisation des lois. Mais pour bâtir véritablement une entité dans laquelle les gens se reconnaissent pleinement et qu'ils ont envie de défendre, qu'ils ont envie de promouvoir, cela se passe sur le plan culturel. Et on n'a rien fait en réalité d'essentiel pour bâtir l'Europe culturelle.
Et ce que vous dites à propos de l'Europe et de son avenir et de son rôle dans le monde est très important, Amin Maalouf. Dans Le naufrage des civilisations, vous dites que c'est peut-être l'espoir d'un monde meilleur ou d'un nouvel équilibre du monde. Alors les élections européennes de la fin du mois, est-ce que vous pensez que ça va être des élections cruciales où tout le monde aura compris l'enjeu européen ou ça sera une fois de plus des élections tout à fait normales, c'est-à-dire encore notre scrutin où chaque Européen jugera plutôt ses dirigeants, c'est-à-dire restera dans un vote plutôt national.
Je pense que telle que la campagne se déroule aujourd'hui, ça va être probablement une élection comme une autre. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut voter pour n'importe qui, que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais je n'ai pas le sentiment qu'il y a véritablement un élan porté par des forces politique pour modifier en profondeur le cours des choses. Je n'ai pas l'impression que la dérive qui se dessine aujourd'hui va s'arrêter. Or, cette dérive est extrêmement grave avec ce qui arrive en Angleterre avec le Brexit, avec la montée des forces eurosceptiques, avec le risque d'avoir d'autres pays quitter l'Union. Donc, je n'ai pas le sentiment que ces élections vont être l'occasion d'un véritable sursaut.
Le naufrage des civilisations d'Amin Maalouf est édité chez Grasset. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous en parler, Amin Maalouf.
Merci. Bye.